Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
Distanciation sociale oblige, nous favorisons les épisodes faits maison, enregistrés à distance. Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est un amateur des jus des fruits, notamment des jus des poires en fait, une boisson qui lui rappelle son enfance dans sa belle Savoie. Bonjour Philibert.
Bonjour à tous, bonjour Daniel.
Alors Philibert, nous sommes aujourd'hui avec un expert des jus des fruits des qualités. Nous pouvons même dire qu'il a créé un segment à part, les jus des fruits gastronomiques. Notre invité est devenu une institution dans l'univers de la bouffe. Nous sommes aujourd'hui avec Alain Milia. Bonjour Alain.
Bonjour Daniel, bonjour Philibert.
Alain, nous avons rapidement échangé par téléphone lundi dernier et on se disait qu'il était important de garder un regard positif sur la situation actuelle et surtout préparer la suite. Mais avant de parler de l'avenir, on aimerait d'abord mieux comprendre comment tu as vécu ces deux derniers mois assez particuliers. Et du coup, est-ce qu'on pourrait commencer par comprendre en fait quel impact cette crise a eu sur ton activité et qu'est-ce que tu as mis en place pour faire face à ces contextes difficiles?
Alors, la crise pour nous a commencé concrètement et avec violence le jour où le gouvernement a prononcé l'interdiction d'ouvrir pour les magasins non qui n'étaient pas primordiaux. Mmh. Et donc ça, c'était le 14 mars. Mais on avait déjà des prémices avec, en Asie, puisqu'on y est présent, notamment un peu sur la Chine et le Japon, une baisse d'activité, des retours d'infos sur des fermetures d'hôtels. On ne s'attendait pas à cette violence dès le 14 et la fermeture de tous nos établissements qui constituent chez nous quand même 75% de notre activité.
Ah
ouais, ouais. Donc du coup, on a été du jour au lendemain en fait, tu passes de 150 commandes par jour à 15 commandes, voilà, puisqu'il restait plus que quelques épiceries à droite à gauche, quelques cavistes quoi. Mmh. Donc effectivement la violence était là, mais ce qu'il a fallu tout de suite, c'est imaginer l'impact sur l'opérationnel dans l'entreprise, quoi. Donc trésorerie, la gestion RH, ça c'est vraiment la première chose qui a été faite et je suis bien entouré, donc ça s'est fait assez rapidement.
T'as mis des salariés en chômage partiel, par exemple?
Oui, on a mis en place, on a utilisé cette mécanique-là, mais c'était surtout, j'allais dire aussi, la deuxième étape, c'était surtout de rassurer et d'informer en fait nos collaborateurs, parce que du jour au lendemain, ils sont bien perçus qu'il n'y avait plus de commandes, il n'y avait plus de production à faire. Donc, il fallait être très transparent et leur dire qu'on allait bosser déjà dans l'urgence pour trouver des solutions pour passer cette crise. Et voilà, ça, c'était important. On est quand même une PME, on est 50. Donc, tu vois, on a une facilité de faire descendre une information, de les avoir en visu, face à face, et de leur parler, quoi. Donc, ça, ça a été très important à mettre en place, j'allais dire, la première semaine même.
Et Alain, tu faisais référence donc au fait que tu vends des jus donc en Japon, en Chine, et ça t'a permis un peu d'avoir des premiers indicateurs en fait de la crise. Juste pour qu'on comprenne, l'export c'est pour toi, c'est un point important dans l'activité de l'entreprise. En fait, combien ça pèse dans ton activité?
Aujourd'hui, l'export, c'est 25% de l'activité. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est aussi sur les mêmes canaux de distribution. Hôtellerie, restauration, un peu de retail, mais surtout hôtellerie et restauration. Alors, on travaille effectivement beaucoup en Asie sur des grandes places hôtelières, que peuvent être Tokyo, Osaka, déjà au Japon, mais aussi sur quelques grandes villes incontournables, que peuvent être Singapour, Hong Kong, Macao, Shanghai. Quand on a eu ces premiers ces premières informations de stagnation des ventes avec ou de fermeture de la part de nos distributeurs sur ces destinations là, on se dit oui, il y a quelque chose qui se passe, mais on n'avait pas imaginé qu'effectivement quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, on allait avoir cette chute brutale de l'activité avec la fermeture des obligatoires des établissements.
Et tu disais du coup que 75% de ton activité donc se faisait en café, hôtel, restaurant. Donc j'imagine que le reste c'est plutôt sur des circuits grande distribution. Enfin, tu vas nous préciser ça. Mais en grande distribution, comment ça s'est passé aussi? Parce qu'on sait que dans la grande distribution, les consommateurs ont d'abord privilégié les produits dits de première nécessité. Donc j'imagine que tes jus étaient peut-être moins dans ces sélections-là. Comment ça s'est passé en grande distribution?
Alors, nous ne sommes pas présents en grande distribution. Nous avons un modèle ou une stratégie qui fait que nous sommes présents, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hôtellerie-restauration. Et après, ce qu'on qualifie de retail, c'est ça va être des cavistes indépendants, des commerces traditionnels, que peuvent être des
sélectifs,
que peuvent être des primeurs. La grande distribution, on n'en a pas profité, mais je pense qu'on n'en aurait pas profité non plus, parce que, comme tu dis, nous sommes avant tout un produit plaisir, tu vois, un produit qu'on achète pour soi, pour il faut un certain temps pour le consommer, etc. Il y a tout un rituel entre guillemets, et c'est un produit qui s'offre, c'est un produit pour célébrer, etc. Et donc on n'aurait pas été considéré comme un produit de première nécessité. Donc on n'a pas de regret à ne pas avoir été dans la grande distribution. Ouais.
T'es pas du tout, même occasionnellement, t'as jamais été dans la grande distribution, parce que j'ai me souvenir d'avoir déjà vu des produits, alors c'était peut-être occasionnel ou via des circuits indirects, à la meilleure en grande distribution, non, jamais.
Alors, on est présent, si, dans quelques monoprix, puisque quand j'ai démarré il y a 20 ans, j'avais mis en place deux très belles vitrines qui étaient la grande épicerie de Paris, rive gauche, et sur les grands boulevards, boulevard Haussmann, Lafayette Gourmet. Et donc, du coup, effectivement, bah, de façon contiguë, il y avait quelques très beaux monoprix. À l'époque, ça s'appelait Top Ten. Et ouais. On a une collaboration avec une dizaine de monoprix sur de très beaux quartiers dans le rayon boisson, oui, effectivement. Oui.
Et ça, c'est toujours d'actualité ou c'était à l'époque
Non, c'est toujours d'actualité, quoi. Ouais.
D'accord. Ouais. Et si on parle un peu e-commerce aussi, parce que j'ai vu que tu avais évidemment un site e-commerce, j'imagine que pendant cette période-là, on sait que les Français sont rués sur les sites e-commerce, les e-shops. Est-ce que vous avez vu une augmentation de la demande et des livraisons, et de quel ordre est-elle?
On avait plutôt un site internet qui était plus institutionnel, qui renseignait l'internaute sur les bien fondés de la marque, nos choix de matières premières, les principes de sélection, de transformation, etc., qui expliquaient le produit et la marque. Mais on avait aussi un site en parallèle, en fait, sur ce même site, une partie e-shop,
ouais.
qui était pas si, j'allais dire, aussi avancé que certains sites que l'on peut constater aujourd'hui, mais qui, malgré un tunnel d'achat, on va pas dire lourd, mais qui pourrait gagner.
Peut optimiser.
Eh bien, on a quand même fait x3, hein, presque. Ouais. Du jour au lendemain. Ouais.
Mais c'est bon, évidemment, c'est pas ça qui va compenser les pertes sur le circuit CHR. Pas du tout. Ouais.
Évidemment, mais c'est très rassurant quelque part, parce que ça veut dire qu'il y a quand même un certain attachement ou un certain besoin d'avoir aussi un produit plaisir, un produit un peu rassurant, régressif, voilà. Et donc c'est pendant cette période qui devient une période difficile pour la plupart des Français, tout simplement à cause de la promiscuité, l'interdiction de sortir, etc. Acheter un produit, pour eux, accéder à un produit tel que ceux qu'on propose, pour nous, ça veut dire qu'il y a quand même un attachement, et surtout on a recruter beaucoup de nouveaux clients. Ça c'est très intéressant. Par rapport à nos clients habituels du site, le x3 a été fait, je crois, de mémoire, à 75% de nouveaux consommateurs.
Et tu sais quel profil ils ont, ces nouveaux clients, ils viennent d'où?
Grosso modo, les achats se recoupent avec nos implantations, c'est-à-dire là où on est implanté, effectivement, là où on est consommé, et c'est là qu'ils en C'est là que ça leur manque aussi, hein, puisqu'ils avaient peut-être l'habitude de le voir, de le consommer au restaurant, dans un hôtel. Et donc, les zones d'achat ou la répartition géographique sur le territoire, effectivement, est à peu près calée sur notre implantation B2B.
Et Alain, en fait, on évoquait donc lundi au téléphone, on parlait aussi de donc des nouveaux canaux de distribution, notamment on parlait de l'e-commerce et on avait évoqué même les circuits courts. Nous, on a eu la chance d'avoir dans ces podcasts Nicolas Machard, qui est le fondateur de Pour des bons et qui nous racontait un peu les bons de ses ventes. Et avec toi, on a évoqué des plateformes comme ça, comme Pour des bons, comme La Ruche qui dit oui. Est-ce que ce sont des canaux qui peut-être qui t'intéressent et qui vont t'intéresser davantage par la suite?
En fait, il faut avoir une vision pendant la crise, là où on est encore un peu dans la crise, parce que c'est pas parce que le confinement a démarré lundi qu'on n'est pas encore dans cette crise de ce virus. Et puis, c'est voir aussi peut-être un peu plus loin, dans 3 mois, dans 6 mois, à 12 mois, ce qui est plus difficile, hein, c'est un exercice qui est un peu plus délicat. Si nous, on se pose des questions sur notre business aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va apporter demain aux consommateurs, quel message nouveau ou alors un message qui existait déjà mais et pour lequel on n'a pas pris la parole. Tu vois, par exemple, 50% de nos fruits français sont achetés à moins de 100 km de notre unité de transformation. Et nous, on le fait parce que pour nous, ça nous paraît raisonnable. Mais du coup, c'est un sujet qui est quelque part assez important. Et je pense que demain, même ces plateformes-là devront aussi, enfin, peut-être se posent déjà des questions. Comment on va exister demain? Est-ce qu'on ouvre, par exemple, La Ruche qui dit oui, par exemple? Est-ce que c'est leur organisation qui aujourd'hui est basée sur des producteurs, donc c'est vraiment de producteurs, c'est ça, consommateurs. Est-ce que demain ils vont dire je fais pas que producteur, je fais aussi un transformeur qui a des fondamentaux qui conviennent à l'éthique ou à la culture d'entreprise. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent évoluer et c'est aussi en tenant compte peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois de leur évolution, de notre capacité à répondre que vraisemblablement on pourra entre guillemets, pas tomber d'accord, mais en tous les cas, se rejoindre sur peut-être une définition d'un nouveau modèle qui peut servir le consommateur ou ses attentes ou sa nouvelle sensibilité.
Aujourd'hui, tu es en contact avec ces plateformes ou pas encore, ou justement, comme tu le dis, il y a des discussions, mais eux, ils considèrent que tu rentres pas dans leur cahier des charges parce que tu es un transformateur?
On les connaît, voilà, mais aujourd'hui, effectivement, on ne rentre pas si une plateforme est complètement sur uniquement des producteurs, c'est-à-dire des gens qui produisent une matière première et la transforment ou pas, mais en tous les cas, il faut qu'ils soient propriétaires, j'allais dire, du fruit ou de la matière première agricole. Effectivement, on ne rentre pas on ne coche pas toutes les cases, quoi. Mais on reste en contact avec eux, oui, et on rentre en contact avec eux, oui.
Si on parle maintenant un peu des producteurs avec qui tu travailles, on sait que forcément tu es proche de tes producteurs pour produire tous tes jus et confitures. Quel impact a représenté pour eux cette crise, sachant qu'évidemment ils vendent sur des marchés, ils vendent aussi à la restauration? Est-ce qu'ils sont en difficulté? Est-ce que tu t'inquiètes pour tes producteurs?
En fait, il y a tous les cas de figure. En fait, tu sais, l'agriculture, pour avoir été producteur pendant 15 ans, et d'une famille de producteurs, il y a une myriade de business models dans l'agriculture. Si t'es au bord d'un bassin de consommation, si t'es en plaine, si t'es en montagne, si t'as une valorisation IGP, c'est hyper complexe. Donc il y a tous les cas de figure dans l'ensemble. Ce qui compte quand même dans la production, que ce soit fruitière ou légumière, mais surtout fruitière, c'est quand même cette période un peu délicate qu'est le printemps. Différents stades phénologiques de l'arbre les gelées, les chutes physiologiques, etc. Donc il faut déjà, pour se projeter, quand tu es producteur, c'est savoir déjà si tu as de la marchandise à vendre, quoi, tu vois, grosso modo, c'est ça. Donc ça, cette année, je pense qu'on est à peu près serein, parce qu'à part l'abricot qui a un peu été cramé par des gelées printanières, il devrait y avoir du volume. Après, il y en a aujourd'hui qui ont été impactés Entre guillemets, ceux qui effectivement étaient tournés vers des transformeurs qui eux s'adressaient à des distributeurs qui travaillaient pour la restauration, que ce soit du snacking, la vente à emporter, des choses comme ça, typiquement des gens qui font de la découpe de fruits, tu vois, des gens qui font de la découpe de fruits, ceux qui fournissaient ces unités-là sont très impactés. Après, il y a un relent quand même de sensibilité sur le l'achat local, l'achat direct, je veux dire il était temps. Moi, je suis très content pour mes copains paysans et pour le monde agricole d'une façon générale, c'est-à-dire qu'ils ont été, sans être mis à l'honneur, mais ils ont été peut-être un peu plus considérés pendant cette période. Enfin, voilà, donc il y a une espèce de relation, nouvelle relation qui s'est installée, quoi, en fait, me semble-t-il.
Et en effet, on a vu la grande distribution s'engager, notamment dans la filière fruits et légumes, pour garantir des fruits et légumes 100% français. Bon, on espère que ça va durer après la crise, mais j'imagine que ça a dû les aider.
Et Alain, tu faisais référence donc au déconfinement, qui en fait est un déconfinement plutôt symbolique, parce que en pratique, en fait, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé, notamment l'ouverture des restaurants. Nous n'avons pas encore des dates pour cette ouverture-là. On parle de la mi-juin comme une possible date, en fonction de comment les choses évoluent. Comment vous préparez dans l'entreprise pour accompagner vos restaurateurs, vos clients dans cette période des réouvertures?
Bah, tu vois, la réouverture, le déconfinement, comme tu dis, il est progressif. Il va y avoir, déjà, on n'a pas encore le date complètement fixe. Enfin, on n'est pas sûr, en fait, une date à laquelle redémarreront les restaurants. Là aussi, certains se sont préparés. Encore une fois, moi, je me dis, et c'est ce qu'on se dit avec mes collaborateurs, si nous, on se pose des questions sur l'après, toutes les entreprises se posent des questions sur l'après-crise, sur les 6 mois à venir, sur fin d'année 2020 et 2021, etc. Et donc, il va y avoir peut-être des nouvelles organisations, des nouveaux, pas business, mais en tous les cas, des nouvelles stratégies de restaurateurs. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont disponibles pour nous recevoir? Aujourd'hui, pas trop. En revanche, on essaie de les avoir déjà en contact sonore, au téléphone, pour garder le contact, parce que là, quelque part, on est resté presque 2 mois sans avoir de nouvelles, quoi, tu vois. Les hôtels, c'est un peu différent. Déjà, c'est plus gros, il y a plus d'interlocuteurs. Leur date de retour, pas la normale, mais en tous les cas, un niveau suffisant pour tourner, est un peu plus, j'allais dire, imprécis, quoi, parce qu'ils tournent quand même beaucoup, l'hôtellerie 4 et 5 étoiles, travaillent beaucoup avec une clientèle de business qui aujourd'hui n'a pas repris le chemin des déplacements, et puis avec une clientèle touristique internationale, quoi, qui vraisemblablement ne sera pas au rendez-vous cet été, quoi. Donc c'est un peu plus délicat sur l'hôtellerie.
C'est vrai que pour tout ce qui est hôtellerie, tourisme, et surtout pour ceux qui ont une clientèle internationale, même les 15 juin, c'est une date qui n'a pas beaucoup de valeur, parce que les frontières restent fermées et ces touristes restent chez eux. Et est-ce que tu imagines, est-ce que tu te poses la question, comment tu pourrais aider tes partenaires de l'hôtellerie, de la restauration? Est-ce qu'il y a peut-être des initiatives que tu aimerais mettre en place pour les accompagner?
Pour moi, en fait, c'est il faut être présent. Il faut être présent. Il faut être agile. Tu vois, c'est un peu ça. Et au bout du compte, leur montrer que nous aussi, en fait, on a, on se remet en question, ou en tous les cas, on essaie de trouver des solutions pour continuer en fait ce qu'on a fait avec eux pendant des années. Et si eux ont besoin de changer, nous aussi on a besoin de changer. Si eux ont besoin de modifier, ben nous aussi on modifiera. Mais quelque part, ça, il y a une espèce d'émulation, je pense, à se rencontrer, à échanger, parce que encore une fois, cette crise nous permet, je sais pas si elle nous permet, mais en tout cas elle nous oblige à quelque part repenser beaucoup de choses, quoi, et peut-être à modifier ou aller dans telle direction, même si c'était déjà une direction qui était prise par rapport du RSE, par rapport à la propreté du produit, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on, d'une façon générale, tu vois, c'est trouver des nouveaux équilibres, en fait, entre les choses. Enfin, je pense que c'est un peu ça. Et si demain, l'équilibre pour un restaurateur, c'est de faire et du click and collect, et d'organiser peut-être des nouvelles formules, des nouvelles offres, eh bien, il faudra qu'on soit là, en fait, à son écoute, avec ces nouvelles contraintes, et que nous, on puisse apporter des solutions avec nos produits.
Et justement, comment tu vois cette reprise, quelle leçon tu tires déjà de cette crise, au-delà de celle que tu viens d'évoquer?
Quelle leçon on...
Est-ce que quelle tu penses leçon... que ça va accélérer les tendances, voilà, le local, le bio, les sujets comme ça? Toi, j'ai vu que tu avais une partie de ton offre qui était en bio. Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé? Est-ce que tu penses que justement aujourd'hui, enfin demain, les consommateurs sont encore plus sensibles à ces sujets-là, au local, même d'ailleurs dans le sourcing de tes fruits? Est-ce que ce sera un approvisionnement qui est plus local, au même titre que la grande distribution aujourd'hui s'approvisionne plus en fruits et légumes de français, ouais, par exemple? Est-ce que tu penses que ça va changer, ça?
Alors, pour nous, en fait, on avait déjà commencé à réfléchir fin d'année 2019, tout simplement pour dire réellement ce qu'on faisait. Ce que je disais en début d'échange avec vous deux, c'est que, tu vois, l'achat local chez nous qui est hyper important, mais qui est plus quelque chose qui tombe sous le sens, en fait, mais qui n'est pas une démarche RSE, mais qui tombe sous le sens, aucun intérêt d'aller acheter, par exemple, une pêche jaune, dans la plaine de la Croix, alors que dans la Drôme, t'as les mêmes, et que même si peut-être t'as 5 centimes de moins ou 10 centimes de moins, mais quelque part, ça en vaut pas la peine, parce que l'enjeu n'est pas si fort. Et donc, on a fait des choix, déjà, depuis de nombreuses années. Mais là, on se disait, c'est peut-être l'occasion de prendre la parole pour dire effectivement ce qu'on fait. Après, est-ce que demain, il y aura il y a une accélération des tendances, quoi, effectivement. Mais encore une fois, si par exemple la tendance c'est le bio, on sait très bien pour des questions pédoclimatiques, pour des questions de disponibilité de surface agraire, pour des questions d'organisation de culture, on passera jamais en 100% bio. Ça, c'est un monde idéal. En revanche, trouver des nouveaux équilibres pour que peut-être apporter ou valoriser apporter une préférence matière à autre chose, à un produit plus propre, c'est trouver ces fameux nouveaux équilibres. Mais quant à nous, tu vois, par exemple pour les restaurants, on a un modèle, par exemple 20 centilitres, qui est un produit hyper nomade et qui va répondre, même s'il est déjà en place depuis 2 ans, mais qui va répondre par exemple à peut-être du click and collect sur des restaurateurs. Auprès des restaurateurs, pour l'hôtellerie, ça peut être, quand elle va reprendre, peut-être aussi un peu plus avancé avec modèle 100 centilitres. Pour ceux qui seront peut-être un peu plus sensibles à un produit hyper faible en calories, mais toujours en ayant un produit plaisir, ça va être nos citronnades qui sont bio. Ouais. Si on a quelque part tous les ingrédients, c'est juste qu'il faut qu'on avance un pion plutôt qu'un autre, alors que on avait déjà tout en place, quoi, tu vois. Je ne crois pas à la radicalisation ni du consommateur, ni des offres, ni des circuits. Demain, on va pas acheter on va pas arrêter de manger de l'ananas, et donc on fera venir de l'ananas par avion, par bateau, en mode surgelé, en mode frais, ça ne changera pas. Peut-être qu'on en achètera moins, ou que le consommateur en achètera moins, parce qu'il va se dire, je vais pas manger un ananas toutes les semaines, je vais en acheter peut-être que trois fois dans le mois, tu vois. C'est juste, peut-être qu'il y aura j'aime pas trop le côté prise de conscience, mais peut-être l'utilisation de la raison pour peut-être un peu plus consommer avec un peu plus d'intelligence, quoi. Voilà, moi je vois plus ça.
D'accord. Et tout à l'heure, au début de podcast, tu parlais de l'international. Est-ce que justement cette crise va impacter tes ambitions, les ambitions de ton entreprise à ce niveau-là, les développements à l'international?
Non, parce que, alors, dans un monde idéal où toute l'hôtellerie dans le monde entier va reprendre, non, parce que c'est le canal qui tire chez nous à l'international, c'est quand même l'hôtellerie. Ouais. Alors bon, il faut que l'hôtellerie reprenne, mais ça restera quand même pour nous une stratégie d'être présent à l'international, notamment sur des grandes villes. Quand tu as un client qui passe à Paris et qui est en statut business ou qui est en statut touriste, c'est aussi des gens qui ne font pas que Paris, mais qui font aussi Milan, mais qui font aussi Tokyo, qui font Singapour, Hong Kong, etc. Et pour moi, je me mets toujours à la place de ces consommateurs et je me dis, mais c'est bien pour eux de retrouver aussi avec assurance, avec toujours le même niveau qualitatif, la même présentation de l'objet, eh bien un jus de fruits qui sera dans son minibar au petit déjeuner, qu'il soit à Tokyo, à Singapour, à Milan et à Paris, tu vois. Donc pour nous, la stratégie d'export reste quand même très présente pour après la crise.
Et Alain, on se rapproche de la fin du podcast et on aime bien terminer avec une question plutôt plus perso en fait. Mmh. Et on se demande déjà comment tu as vécu ces 2 mois de confinement et surtout comment tu vis les déconfinements. Est-ce que ça a changé tes habitudes ou ça reste plutôt similaire au confinement?
Alors en fait, comme je disais au départ, il y a eu ce tsunami en fait des premiers jours, parce que pour le coup c'est effectivement très violent. Après on s'est beaucoup organisé pour travailler à distance effectivement, donc en visioconférence hein, comme la plupart des gens dans les entreprises. Moi j'ai quand même un peu bougé sur l'unité de production. Moi je fais 1 heure de l'unité de production et je descendais une fois par semaine. D'ailleurs là j'y suis. Le déconfinement, c'est surtout peut-être voir un peu plus de monde dans les rues, en fait, voir un peu plus d'activité dans des magasins ouverts, etc. Je trouve que ça quelque part, ça crée un peu de vie. Après, moi, j'ai vécu, à titre perso, ces 2 mois comme une... Je vais être hyper positif, mais qu'une très belle opportunité en fait de se poser, de peut-être regarder ce qu'on a fait dans l'entreprise, ce qu'on doit en dire, comment on peut peut-être aussi à nouveau prendre la parole, dire pourquoi je travaille depuis 20 ans avec un fournisseur de pêche de vigne et pourquoi c'est lui. Ben c'est à cause de ses terres, c'est à cause de ses variétés, et c'est parce que je veux un produit unique. Voilà, c'est tout ça en fait. Et cette espèce de temps suspendu, moi je trouve qu'il a été très agréable et c'est vraisemblablement, c'est pas vraisemblablement, j'en suis persuadé, pour quelque chose de meilleur après. Meilleur pour les consommateurs, meilleur pour les entreprises, meilleur aussi pour apporter un peu plus de raison, d'intelligence dans la consommation, dans la production. Voilà. Donc, j'espère beaucoup de l'après, en fait.
Ah, je suis ravi d'entendre ça. On partage un peu cet état d'esprit aussi avec toi, Alain, et tant mieux. Et juste une dernière question. Est-ce que tu as des bons plans, peut-être, des choses que tu as fait pendant ces 2 mois où tu as pris le temps de réfléchir? Est-ce que des choses que tu pourrais recommander à nos auditeurs, des choses qui t'ont aidé à voir les choses d'une façon plus positive, peut-être?
Alors, je ne suis pas du tout sportif, parce que je trouve ça très fatigant, mais c'est parce qu'on est un gros client. Voilà. En revanche, 30 minutes d'exercice par jour, quel que soit le moment de la journée, c'est très bon pour l'esprit, c'est très bon pour le corps, et quelque part, ça nous fait peut-être gagner en clairvoyance. Et donc, je me suis remis à faire ça, alors que je l'avais abandonné depuis peut-être 1 an et demi, et sincèrement, c'est très agréable.
Voilà. Donc ça, tu fais quoi comme sport ?
Je fais pas de sport en fait, je fais des exercices pendant 30 minutes, mais d'une façon très concentrée en fait. C'est pour moi c'est suffisant en fait, c'est suffisant. Mais c'est 30 minutes par jour, hein. toujours.
Oui. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup Alain, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci de nous accorder du temps et bon courage pour la suite. C'est que le début, on a encore beaucoup de choses je pense à mettre en place et à s'adapter pour la suite. Ouais. Et ravi de pouvoir échanger avec toi prochainement lors d'un épisode peut-être un peu plus long pour rentrer dans l'histoire de tout ça que tu crées.
Super, en tous les cas, merci à vous deux, c'était un vrai plaisir. Et puis, à très bientôt, quoi qu'il en soit.
Merci beaucoup, Alain. À très bientôt. Au revoir.
Libère. Au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.